à vous tous. Merci d'être là pour assister à cette conférence sur la robotique, mais la robotique dans une perspective assez particulière, celle de l'apprentissage, non seulement de savoir comment est-ce que les robots autour de nous apprennent, mais également ce que les robots nous apprennent sur nous-mêmes, puisqu'évidemment, avant toute chose, la figure du robot, c'est une figure humaine détournée, et je crois que... Le professeur Chatila nous dira que l'étude des robots nous enseigne beaucoup de choses sur la psychologie humaine. Je vous présente nos intervenants. Tout d'abord, Ian MacDonald, écrivain britannique né à Manchester, mais qui vit en Irlande depuis de nombreuses années, qui s'est fait connaître à la fin des années 80 avec un très beau livre qui s'appelle « Desolation Road », qui a été adapté au cinéma officieusement par John Carpenter. Je crois qu'il ne va pas me contredire quand je vais dire ça. Donc, il n'a pas touché le royalties là-dessus. Il a beaucoup travaillé sur les notions de nouvelles technologies, de nanotechnologies, de robotique également, entre autres dans les pays, on va dire, émergents. Il a un vrai intérêt pour, et on en parlera, pour les pays dits en développement et l'impact des technologies dans ces pays-là. Vincent Gessler, jeune auteur suisse, qui a écrit plusieurs nouvelles et qui est un peu l'une des stars de ce festival, puisqu'il vient de recevoir hier soir le prix Julia Verlanger de la Fondation de France pour son premier roman Cygnis, où les robots ont un rôle tout à fait primordial. On va voir un peu spoiler le livre, je suis désolé. Donc, mais allez vite l'acheter. Il est aussi en compétition pour le prix européen des Pays de la Loire, le prix du festival. Sait-on jamais ? Peut-être qu'on verra Vincent Gessler danser encore ce soir, encore plus fort que hier. Frédéric Boidron, vous êtes fondateur du magazine Planète Robot, dont on a quelques exemplaires ici, donc le premier magazine francophone vraiment de robotique grand public, robotique interactive et domotique aussi sur le robotique. Vous avez aussi fondé un site internet qui s'appelle robotique.com, qui est le premier site de vente véritablement de robots grand public en France, et vous allez ouvrir ici à Nantes dans quelques semaines la première et seule boutique grand public pour les robots. Donc vous serez là pour nous parler aussi des rapports entre monsieur, madame, tout le monde et la vie robotique qui s'installe autour de nous. Et last but not least, professeur Raja Chatila, vous êtes directeur au CNRS du centre du laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, qui est le plus gros laboratoire, sauf erreur, du CNRS, 650 collaborateurs, dont 540 chercheurs, quelque chose comme ça, oui. Donc, vous nous parlerez des différents projets que vous pouvez avoir, et c'est vers vous que je vais me tourner dans un premier temps, puisque j'aimerais savoir, à votre avis, là on parle de robots qui apprennent, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est pour vous, lorsque vous avez défini dans un livre récemment publié à La Martinière sur science et science-fiction, différentes catégories de robots ou d'interactions entre les hommes et les robots. Et l'une de ces interactions, c'est l'apprentissage, c'est l'acquisition des données, c'est le fait de rebondir sur ces données de façon inédite peut-être. Mais comment, très concrètement, dans un laboratoire de recherche, les robots apprennent-ils ? Est-ce que ce n'est pas, un artifice, l'apprentissage ? Est-ce que ce n'est pas une programmation ? Comment ça se passe concrètement ?
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui peut sembler étonnant de dire qu'une machine, un robot, apprend. On a plus coutume, quand on parle de robotique ou quand on parle d'ordinateur, de dire ils sont programmés, ils ne font que ce pour quoi ils sont programmés. Mais on constate assez rapidement, bien sûr, que leurs capacités seront très vite limitées et répétitives s'ils ne sont que programmés. L'idée de l'apprentissage, elle est très très simple. Donc il s'agit d'améliorer les capacités opérationnelles du robot, de lui faire apprendre de nouveaux modèles, et afin qu'il puisse améliorer son comportement. Alors comment on fait ça ? Il y a plusieurs méthodes, plusieurs principes. Finalement, quand on parle de robotique, on va toujours avoir un peu comme référence l'homme ou en tout cas le monde du vivant. La première méthode que je vais mentionner, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation, par observation. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui observent, par exemple, un humain en train de faire une action, avec des capteurs qui peuvent donc enregistrer et transmettre au bras robotique ou au robot mobile les actions en question. Et le robot va les répéter. S'il se contentait de les répéter, de les imiter, donc littéralement, ça ne serait pas vraiment de l'apprentissage, ce serait une sorte de transmission du mouvement. Non, là, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de plusieurs tentatives, on essaye d'extraire la quintessence du mouvement ou du geste qui a été effectué, parce que parfois le geste est important, parfois c'est sa finalité qui est importante. Par exemple, quand vous nettoyez une vitre, ce qui est important, c'est le geste, ce n'est pas le point d'arrivée. Et quand vous êtes en train d'écrire, ce qui est important, c'est le geste, ce n'est pas le point d'arrivée non plus. Donc, le robot va enregistrer un certain nombre de tentatives, d'essais, en extraire, avec des fonctions mathématiques, bien sûr, la quintessence, et être capable ensuite de refaire ce geste, mais de manière complètement autonome. Une autre méthode, qui est à l'opposé, entre les deux, il y a des variantes, c'est un apprentissage plus autonome, où le robot va apprendre sur la base de sa propre expérience en interagissant avec son environnement. On appelle ça de l'apprentissage par renforcement. Et l'idée est très simple, c'est la punition et la récompense. On va donc mettre un robot en situation, par exemple, de se déplacer, il faut apprendre à éviter des obstacles, et quand il effectue certains mouvements qui l'amènent à heurter les obstacles, ces mouvements seront punis. Quand il effectue des mouvements, qu'il est loin des obstacles et qu'il approche de son objectif...
Puni par quel moyen? Parce qu'il n'y a pas de valeur morale, a priori.
Tout à fait. Il n'y a pas de valeur morale. Il y a simplement... Mais c'est une valeur, en tout cas, c'est une fonction d'évaluation purement logicielle. C'est-à-dire que telle action va être notée, si vous voulez, c'est une note, hein, moins 1, telle autre action va être notée moins 2, telle action va être notée plus 1, plus 2, etc. Et de ce fait, ce sont les actions qui sont les plus récompensées qui vont finalement, au bout d'un certain nombre de répétitions, être utilisées. Et de ce fait, le robot donc va éliminer les actions à effet négatif. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ce qui est important, ce n'est pas le résultat ou l'effet de l'action immédiate, mais l'effet à long terme. Par exemple, quand vous jouez aux échecs, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si le mouvement que vous venez d'effectuer sur l'échiquier a une valeur positive ou négative, mais est-ce que ça va vous faire gagner à la fin? Donc ce n'est qu'après 20-30 coups que vous saurez que ce mouvement-ci est important. Donc il faut tenir compte, bien sûr, de ce cumul et de cet effet-là. Donc il y a des fonctions mathématiques qui le font. Bien sûr, les mathématiques sont à la base de toutes les modélisations. Et donc voilà des méthodes qui sont utilisées.
Mais c'est un apprentissage en fait qui va produire un résultat auquel a priori vous attendez. C'est-à-dire que c'est pas un apprentissage qui induit par exemple un élément de surprise. Est-ce que vous avez vu dans votre laboratoire, dans le développement du robot, parce qu'on parle là de robot évolutif en quelque sorte, hein, des résultats que vous n'avez pas induit vous-même?
Oui, alors, pas vraiment dans le sens où vous posez la question. Pour le moment, les techniques d'apprentissage aboutissent, parce qu'on les fait comme ça, à des résultats qui sont plutôt attendus. Je dirais même qu'on conçoit les techniques pour que ça arrive à ces résultats-là, parce qu'on souhaite que le robot améliore son comportement d'une certaine manière. Mais à partir du moment, malgré cela, où vous programmez un système complexe avec des techniques élémentaires, mais dont l'accumulation ou dont l'interaction peut produire des effets beaucoup plus complexes, vous pouvez avoir de l'inattendu. Par exemple, ça c'est un exemple réel, nous avions donc un robot qui apprenait à suivre un objet mobile, donc il était en train de détecter cet objet, et puis tout à coup il est parti dans une autre direction. On s'est aperçu que tout simplement l'objet qu'il était en train de suivre ressemblait beaucoup à un autre objet, mais qui n'était pas fait pour ça, à côté. Et le robot s'est mis à suivre donc cet autre objet. Alors, ce n'est pas l'effet de l'apprentissage, mais le.
Tout l'effet de la confusion, là, en l'occurrence.
De la confusion, si vous voulez, mais n'est-ce pas justement la richesse de l'environnement, de la dynamique, l'évolution de l'environnement dans lequel le système évolue, qui va induire
ce comportement. Il faut bien dire qu'en fait, le robot n'apprend ou ne se développe que par interaction avec son environnement et surtout avec l'être humain, en réalité. Et Frédéric Boidron, vous qui êtes en contact avec les êtres humains qui viennent vous acheter vos robots, j'ai lu quelque part, Raja Chetila a écrit que la réaction des robots, entre autres aux expressions humaines, elles sont essentielles pour le développement des robots domestiques, par exemple. Il faut que les robots domestiques déterminent, en voyant leurs maîtres, en quelque sorte, à quel point ils sont heureux ou pas heureux ou fâchés, pour pouvoir réagir par rapport à ça. Et c'est le cas dans ce que vous vendez, par exemple, ou dans le travail que vous effectuez ?
Actuellement, on n'en est pas encore à ce niveau-là dans les robots que l'on distribue dans le commerce. Je dirais plutôt que cette recherche va plutôt se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire comment l'humain va percevoir le robot. C'est-à-dire, est-ce que le robot, il peut avoir une forme plus ou moins humaine, plus ou moins vivante, ou doit ressembler le plus possible à une machine. Donc il y a ce qu'on appelle la veille de l'étrange, Uncanny Valley. Et donc c'est la façon dont l'humain peut s'approprier le robot. Il y a un exemple, c'est qu'en ce moment, il y a une vidéo qui tourne sur Internet où on voit une femme danser, chanter avec un visage à expression humaine. Pour énormément de personnes, ça va choquer. Donc par exemple, sur les robots que l'on retrouvera à la maison, en tout cas en Europe, puisqu'on n'a pas la même vision qu'au Japon, les robots devront ressembler vraiment à des machines.
Mais on peut avoir des robots humanoïdes qui sont à la fois assez proches de machines, mais également qui créent de l'émotion. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'émotion, elle passe parfois par des détails. Je vais peut-être vous montrer un exemple, comme ça le public verra de quoi on parle, ici sur la vidéo. On a le robot Nexi qui a été fait dans le laboratoire du MIT, donc aux États-Unis.
Hello, my name is Nixie, and I'm an MDS robot. MDS stands for Mobile, Dexterous, Social. Mobile because I can move around. Dexterous because I can use my hands to touch things or even pick them up. And social because I can communicate in many of the ways that people do. I can tell you that I'm sad, mad, confused, excited, or even bored. Just by moving my face. But I hope you can see that I am very happy to have met you. Thank you for visiting me, and I hope to see you again soon.
Voilà, ce que je trouve intéressant ici dans cet exemple, personnellement, c'est à la fois qu'il est, il est très très loin de nous, hein, ce robot. Il joue pas sur exactement sur l'illusion totalement, mais avec des codes que l'on reconnaît. Vincent Gessler, le robot de ce type-là, c'est un cliché de science-fiction en quelque sorte. Quand vous, en tant qu'auteur, vous appréhendez ce type la robotique en général, comment est-ce que vous pouvez imaginer renouveler le genre et transformer le genre, alors qu'on est entouré de ce type-là de robots dont Asimov ou d'autres écrivains de science-fiction pouvaient rêver.
Tout dépend du propos. Finalement, on a toujours un robot qui est l'alter ego du corps humain, et on essaie toujours de la vieille thématique d'essayer de recréer un être humain depuis le golem jusqu'à nos jours, et on ne sait pas de quoi le futur est fait. Et donc là, on peut fantasmer le futur et cette interaction-là. On peut s'amuser à mettre en scène toutes sortes de métaphores dans le rapport au corps, et le robot s'y prête particulièrement bien. Alors après, ce qu'on a vu dans cette petite vidéo, c'est une certaine esthétique du robot qui a déjà été un petit peu évoquée. C'est vrai qu'on peut chercher, on a besoin pour saisir un robot de saisir tout ce qu'il a de machine. On n'a peut-être pas envie de l'émuler jusque dans ses caractéristiques l'être humain le plus charnel, avec les capacités peut-être de pleurer. On n'aurait peut-être pas envie de ça. Peut-être ça peut faire justement un peu peur. Donc on va chercher à voir justement, mettre à l'air ses circuits, entendre les bruits de rotation des rouages, etc. Après, dans l'imaginaire, par exemple, je peux illustrer dans le cadre de mon livre. Où on
trouve... Publié d'ailleurs par un éditeur nantais, hein, on tient à préciser, La Talente, est disponible ici chez Libraire Complice au fait du, donc vous pouvez vous précipiter. Je pense que vous aurez une signature d'après cette table ronde d'ailleurs.
Oui, ben là, on peut, là j'ai aussi fait le choix de prendre des robots qui étaient assez reconnaissables, humanoïdes, mais qui gardent des caractéristiques techniques, de montrer qu'ils ont un usage qui, et qu'on ne va pas chercher un alter ego d'être humain qui est en chair. Alors là, ce qui était amusant à faire, c'est, après, c'était ce twist de dès qu'on a une intelligence artificielle, qu'elle devient consciente d'elle-même, qu'est-ce que ce support d'information complexe, autonome, va se décider ensuite pour interagir avec le monde. Est-ce qu'il va vouloir garder cette enveloppe qu'on lui a déterminée à l'origine? Et on peut se retrouver avec des petits robots sympathiques comme celui-ci. Ou est-ce qu'il va vouloir évoluer? Et s'il veut évoluer, ben, quelle direction il va prendre? Alors là, je ne sais pas si... Je ne dois pas aller trop loin.
Non, mais je crois qu'il faut expliquer. Enfin, parce que, enfin, en gros, vous avez fait preuve quand même d'originalité dans ce roman. Donc, sans tout dévoiler, vous pouvez quand même nous dire, donner quelques pistes de réflexion. Ce qui m'intéresse, c'est le processus aussi de création littéraire. Comment est-ce que vous, alors que les robots sont là autour de nous, vous pouvez vous approprier ce qui, pour moi, peut paraître un thème totalement éculé de la science-fiction.
Ouais. Donc, là, la spécificité, c'est que les robots, à un moment donné, ça se passe dans un futur où toute technologie était gommée par une catastrophe, mais les robots ont continué à exister avec leur algorithme de survie implémenté. Donc ils continuent à fonctionner suivant leur programmation. Mais ils ont cette capacité d'évoluer pour survivre, et ils se posent la question à un moment donné, bon, nos corps se déglinguent, on n'est plus capable de les entretenir, ni de les faire évoluer, quelle va être l'étape suivante? Et là, l'astuce a consisté à se dire que si on n'a plus toutes les chaînes de fabrication, si on n'a plus tous les centaines de milliers d'ingénieurs qui vont avec, de chercheurs, de scientifiques, c'est de se dire les robots eux-mêmes, ils n'ont pas été spécialisés pour s'entretenir, se conserver.
Et, en fait, les robots dépendent évidemment de l'environnement humain dans lequel ils évoluent.
C'est ça. Donc paradoxalement, ils ne sont complètement pas autonomes du tout. Alors qu'on aimerait les rendre autonomes, dans la durée, ils ne sont absolument pas viables. Et là, la technique, par une astuce de narration, ça va consister à ce que les robots conscients de leur finitude, mais ne voulant pas disparaître, vont se faire chair. Ils vont décider finalement, le robot ultime pour le robot, c'est de devenir un être humain, c'est d'avoir un corps. Un corps de chair, peut-être putrescible, mais qui va pouvoir changer.
Donc le futur du robot dans votre ouvrage, c'est l'homme.
Voilà.
D'accord. On lira ça avec attention. Ian MacDonald, you have been working.
Vous travaillez depuis quelques années sur l'impact de la technologie sur les sociétés non occidentales, avec des livres comme Brésil ou Dervish House ou La saga en Inde. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés de robots et ce sont des sortes de véhicules qui nous permettent de nous sortir de notre capacité directe. Est-ce que vous pensez que ça agrandit l'écart entre le monde développé et le monde en cours de développement? Et comment ces thèmes sont traités dans votre œuvre? Oui, chaque culture, chaque société crée des robots à son image. Pour nous, à l'Ouest, toutes les machines robotiques nous servent. Ce sont des choses qui nous servent. Avant, on avait des domestiques. Maintenant, on a des machines à laver. Hein? Une machine à laver, c'est une sorte de robot qui fait quelque chose... qui fait des tâches répétées de façon fiable. Donc, là, nous, on a une certaine contribution. Donc, voilà, par exemple, on ne met pas de teinture, on ne met pas de javel. Donc, c'est un robot qui nous sert. Et quand je suis arrivé à Paris, là, en avion, là, techniquement, l'avion peut décoller, voler, atterrir sans ingérence humaine. C'est une machine à voler. Mais je pense que ici, dans le monde occidental, les robots sont là en image de nous. Ce sont nos enfants numériques, en quelque sorte. Ce sont nos créations. On les conçoit et puis on voit comment ils doivent être intelligents, où doit être l'intelligence. comment ça doit être comme nous. D'autres sociétés regardent ça peut-être de manière différente. Au Japon, c'est tout à fait l'idée de robot androïde, humanoïde, comme on disait. Donc c'est l'homonculus, comme on disait au 19e siècle. Et pour eux, c'est très important en termes d'artefacts culturels, quelque chose qui ressemble à l'homme. D'autres sociétés ont des façons différentes de voir l'intelligence artificielle, les robots, ce qu'ils peuvent faire, à quoi ils vont correspondre visuellement. Je travaille avec pas mal d'animateurs d'Inde, en Inde, et ils ont lu mon livre River of Gods avec les robots, tout ça. Et là, les gens, ils disaient, mais non, là, vraiment, t'as rien compris, parce que si c'était des robots qui étaient en Inde, en fait, ils tomberaient en panne tout le temps, ça marcherait pas, on pourrait pas les maintenir, ils seraient sur le bord de la route avec des morceaux qui manquaient. Donc, c'était intéressant de voir comment on peut voir des choses et comment on peut respecter les choses aussi, parce que je dirais que toute l'intelligence que nous connaissons, vous tous, nous tous, on considère que nous sommes tous intelligents. Mais les exemples d'intelligence... Enfin, l'intelligence est un produit de l'évolution. Et moi, je suis un darwinien. Dans la robotique, ce qu'on fait, c'est qu'on est Dieu, on crée une machine, une intelligence. Et je serais intéressé de voir si on peut le faire comme expérience. Alors, que se passerait-il si le robot se développait tout seul, si ça ne correspondait pas à nos plans, nos désirs, nos envies, si c'était une évolution tout à fait spontanée, et comment ça pourrait influencer la forme, la fonction, etc. Donc, quel genre d'intelligence alors? C'est ça la question. Ça, c'est l'inconnu, ça, parce que le seul modèle pour l'intelligence, c'est nous-mêmes. Serait-on capable de reconnaître une autre intelligence qui ne partageait pas nos valeurs, qui ne partageait pas notre environnement aussi? Toute intelligence s'est développée en réponse à un environnement. Nous évoluons avec une vision voniculaire, on est debout, on a des doigts opposables et puis on a la langue pour pouvoir donner un sens au monde et communiquer. D'autres robots, enfin, sans parler des robots, pensons aux dauphins. On suppose que les baleines et les cétacés sont intelligents, mais ils évoluent dans un environnement où il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de feu. C'est un environnement tridimensionnel, alors que nous, on est deux-dimensionnel. Donc, est-ce que ça change leur intelligence? Ils sont intelligents peut-être, mais on ne le reconnaît pas parce que ce n'est pas comme nous. Et je suis intéressant de voir comment les machines pourraient... comment les machines pourraient développer leur propre intelligence, en fait, par rapport à l'environnement. Et ils ont peut-être besoin de se recharger de temps à autre. Ils doivent pouvoir manipuler le monde physique d'une certaine manière. Comment ça pourrait les faire évoluer? Est-ce qu'ils vont terminer comme nous? Ou est-ce que ça va être quelque chose de totalement différent? Est-ce que c'est quelque chose comme les robots qu'on utilise pour explorer les planètes, qui sont conçus pour cet environnement? Donc, je serais intéressé de voir comment on peut s'éloigner de faire des choses à notre image, et si on pouvait les laisser évoluer tout seul. Bon, c'est impossible, en fait, de sortir de sa peau humaine et de s'imaginer robot. Oui, mais en tant qu'auteur de science-fiction, c'est mon boulot. Je dois essayer. Donc, je suis là.
Évidemment, c'est une composante essentielle du robot. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur le fait qu'une machine à laver, comme disait Ian MacDonald, est un robot. Peut-être que vous le serez. Mais on est quand même loin aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, des propositions de la science-fiction dans les laboratoires de recherche. Pour quelles raisons, en fait? Est-ce que la recherche, enfin, est-ce qu'au niveau économique, il est plus intéressant d'avoir justement des drones ou des robots comme les robots martiens, par exemple, que l'on pilote à distance? Est-ce que l'interaction humaine est primordial au niveau économique, ou est-ce que c'est des raisons éthiques, on va dire, ou de peur primordiale, peut-être aussi humaine, qui font que le développement d'intelligence artificielle ne se fait pas, disons, dans le sens que la science-fiction l'a imaginé?
Tout simplement parce qu'on ne sait pas faire. Le programme de l'intelligence artificielle a été décrit en 1956 par une réunion de quelques scientifiques, des informaticiens essentiellement, qui ont essayé à ce moment-là de lancer donc ce domaine de recherche et qui devait répondre à une question très simple: est-ce que les machines peuvent penser? Machine, entendez, ordinateur, plus tard robot. On ne sait même pas définir pensée, on ne sait même pas définir intelligence. Mais ce que Turing avait imaginé, c'était de comparer le comportement humain dans un test par rapport au comportement d'une machine, d'un ordinateur. Et là, c'était un test d'échange verbal. Et si on ne pouvait pas distinguer l'ordinateur de l'humain, à ce moment-là, on dirait que l'ordinateur ou la machine, donc, effectivement, est intelligente ou assez intelligente que l'homme. Donc, en fait, la difficulté de l'intelligence artificielle, c'est que son objet de recherche est mal défini. On ne sait pas ce qu'on est en train d'essayer de faire. On ne sait que le comparer à ce que les humains font. Et chez les humains, on appelle ça de l'intelligence. Alors, pour vous donner juste en quelques minutes une idée de comment on peut se tromper. Évidemment, je pense que tout le monde dans cette salle serait d'accord pour dire que jouer aux échecs, c'est une manifestation d'intelligence. Or, jouer aux échecs, c'est bien pratiquement la seule chose aujourd'hui que l'intelligence artificielle a réussi à réaliser d'une manière supérieure ou égale à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on a compris un certain nombre de mécanismes dans le jeu d'échecs. Et donc d'un côté, de l'autre côté, on a aussi fabriqué des ordinateurs de plus en plus puissants, de plus en plus rapides, capables d'explorer des centaines de milliers de possibilités de jeux, de mouvements, beaucoup plus rapidement donc que ce qu'ils faisaient il y a de nombreuses années, et certainement pas comme l'homme ou la femme, enfin comme les êtres humains jouent, d'une manière complètement différente. Simplement, cette vitesse et la compréhension de le modèle du jeu d'échecs a abouti à la solution, à la réalisation d'un système d'intelligence artificielle capable de jouer aux échecs. Mais aujourd'hui, ça n'impressionne peut-être plus personne. Évidemment, c'était au départ, en 1956, l'un des problèmes majeurs. Une fois qu'on l'a compris et que la puissance informatique était là, on l'a résolu. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun robot qui soit capable de faire des tâches quotidiennes qu'un être humain fait, par exemple, simplement se déplacer dans la rue dans toutes les conditions de météo, ou bien faire la vaisselle, mais vraiment la faire, hein, pas comme une machine à laver hein, et sans casser, ou des actions qui sont extrêmement simples, hein, qu'on ne traiterait pas d'intelligence. Cela, c'est parce qu'on s'est aperçu finalement que l'intelligence, disons, à la manière des êtres vivants, humaines, et surtout une intelligence incarnée dans un corps qui est en interaction permanente avec son environnement, qui est situé dans un environnement évolutif, et que la compréhension de cet environnement, qui pour nous est tout à fait en arrière-plan, on n'y pense même pas, est la tâche en fait qui est la plus difficile à réaliser aujourd'hui pour un robot ou pour une machine intelligente. Donc on travaille dessus. Une fois, qu'est-ce que ça signifie? Cet objet-là que je tiens, qui s'appelle un microphone, je suis capable de dire ça, c'est un microphone, alors que je ne l'ai jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Voilà des questions
fondamentales. Cet exemple que vous avez donné dans un de vos articles, il disait que les robots peuvent remarquer qu'il y a 15 chaises et qu'elles ont des formes différentes, mais qu'en fait, vous présentez une chaise qui est peut-être autre chose, mais sur laquelle on peut quand même s'asseoir, mais le lien ne se fera pas.
Voilà, donc effectivement, c'est l'interprétation, la compréhension, l'apprentissage aussi, hein, parce qu'on apprend cela. En fait, finalement, quand on est petit et à travers notre évolution individuelle, à travers l'interaction que nous avons avec notre environnement, les différents objets, etc., et à travers aussi, bien sûr, les personnes qui nous entourent et qui nous ont guidés dans cet apprentissage. Donc, On est encore loin d'arriver à cette à ces capacités-là, et c'est pour cela que les robots dans les laboratoires sont encore loin des robots de la science-fiction. D'autre part, bien évidemment, les programmes de recherche en robotique sont financés par les pouvoirs publics un peu partout dans le monde. Certains sont financés pour comprendre les fondements, hein, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, etc. Et d'autres sont financés pour arriver à des résultats socialement utiles, c'est-à-dire avec des applications où on n'a pas besoin de comprendre finalement tout l'arsenal de l'intelligence. Donc des véhicules intelligents, des voitures autonomes, des robots militaires, etc. Et ça, bien sûr, ça amène à résoudre des problèmes partiels qui amènent donc à une utilité économique ou sociale qui feront bien sûr avancer le front des connaissances, mais pas à la même vitesse que la réponse à cette question fondamentale.
Frédéric Boisdron, on a dit que bon, les robots ne pouvaient pas faire la vaisselle, mais en fait, vous avez des robots qui peuvent passer l'aspirateur et faire toutes sortes de choses. On a parlé aussi du fait que les robots, en fait, peuvent être définis comme intelligents ou pas vis-à-vis de la réaction de l'être humain. Donc, en fait, cette interaction-là, elle est évidemment essentielle. Et on voit qu'aujourd'hui, le rapport à l'émotion et à l'interaction avec l'être humain, il est mis en avant dans la robotique quotidienne. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas que le robot véritablement ressemble à un robot. Ici, on en a un qu'on pourra voir d'ici quelques instants. Et il y a d'autres exemples. Hein. On sait qu'il y a des robots de compagnie maintenant au Japon, par exemple. Il y a un robot qui ressemble à un bébé phoque qui s'appelle Paro, qui est donné souvent aux personnes âgées qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas d'amis, par exemple. Et il y a des transferts émotionnels assez fort. Est-ce que c'est le cas dans votre expérience ou ce que vous avez pu écrire, ce transfert-là, il se renforce. On accepte de plus en plus comme ça que le robot fasse partie de notre environnement. Je pense aussi à cet exemple dans aux États-Unis. Donc il y a de plus en plus de drones qui sont utilisés, d'objets robotiques, que ce soit le Big Dog par exemple, qui est ce grand chien robot qui est utilisé pour porter les éléments du nouveau combattant du futur, et à tel point que les soldats décernent des médailles ou donnent des noms à ces robots, les intègrent dans leur patrouille. Il y a une relation extrêmement forte, en dépit, malgré tout, d'une apparence et d'une réalité totalement, on va dire, électronique.
Eh bien, oui, effectivement, en fait, les gens s'attachent également aux robots, aussi grâce à la forme du robot. Je vais un peu en contradiction de ce que je disais tout à l'heure, mais le fait qu'un robot ait une forme un peu vivante, c'est un peu comme une interface que les gens vont pouvoir utiliser de façon naturelle. Donc, comme par exemple, là j'ai devant moi donc, le Pléo, qui est un petit robot dinosaure qui va communiquer donc, avec l'humain par des effets en fait, je perds mes mots, je suis désolé.
Montrez-nous peut-être.
Voilà, je vais l'allumer.
De quoi il en
le plus simple.
Parce que ce robot-là réagit sauf erreur au toucher, c'est ça. Hein.
Voilà, en fait, ce robot en fait est capable de ressentir le toucher, la vision. Il est capable d'émettre des sons. Donc devant, il a une caméra, il a des capteurs de distance. Et ça permet en fait d'émettre des émotions. Donc pour certaines personnes, ça peut faire peur, puisque ça effectivement ça ressemble à quelque chose de vivant. Et d'autres, au contraire, ça va l'attirer, puisque ça va ressembler à un chat, un chien,
un dinosaure en l'occurrence.
Mais disons que voilà, dinosaure. Bon, en plus c'est différent, ça n'existe plus, donc ça apporte encore quelque chose de plus. Là, nous, quand on l'a amené donc sur le stand, il y a qu'à voir les gens qui s'arrêtent donc devant le robot pour le toucher, le caresser. C'est voilà, les gens sont vraiment intéressés. Vous voyez, il ressent en fait ce que je lui fais. Donc là, je pense par contre qu'il n'est pas conscient du tout qu'il est devant une salle pleine. Vous voyez, là, il bouge la queue. Voilà, et je peux même, si là, il va pas être content. Là, il va se mettre à pleurer. Donc maintenant, je vais être obligé de lui refaire des caresses pour qu'il veuille bien me revoir. Parce que sinon, là, il va simuler. Donc ce n'est que de la simulation. Ce n'est bien sûr pas des réelles émotions.
Mais, on est dans l'illusion, évidemment, voilà, complète.
C'est de l'illusion. Mais c'est vrai que, de nombreux robots destinés donc, à la maison vont avoir des interfaces naturelles, en fait, liées à la vie, au quotidien. Et donc, le robot qui a ouvert la voie, c'est l'Aibo de Sony. Donc, le robot chien qui avait fait donc, Sony, qui avait également des émotions comme ça. Et ça, voilà, les gens se sont rués dessus. Et nous, à chaque fois qu'on le présente, c'est clair que voilà, il crée l'émotion. En fait, comme un rire fait rire les autres. Ben voilà, lui, en imitant une émotion, il va créer l'émotion chez l'humain qui va le voir.
C'est un peu effrayant quand même cette implication émotionnelle qu'on peut mettre, sachant que c'est un jouet. Une question pour Alain Chantilla. En l'occurrence, là, la robotique, elle nous enseigne quelque chose plus sur l'homme que sur les robots. Hein. Je sais qu'il y a des gens comme Aude Billard, professeur à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, qui travaille entre autres avec la robotique pour les enfants autistes. Il y a tous les systèmes d'apprentissage qui se mettent en place maintenant pour utiliser les robots pour le développement des plus jeunes ou pour que les humains eux-mêmes apprennent.
Ces objets, ces robots, si vous voulez, qu'on met aux mains de personnes qui ont des difficultés de communication, comme les enfants autistes, l'idée c'est de dire, ils ne communiquent pas avec les humains, est-ce qu'ils vont communiquer avec des objets qui n'ont rien d'humain, mais qui quand même réagissent, ce n'est pas juste une poupée ou un objet inanimé. Donc, et on a constaté avec des expérimentations que effectivement, ça amène les enfants autistes à avoir des facultés de communication un peu plus développées. Donc, on peut utiliser ces objets interactifs, je préfère les appeler comme ça, pour tirer, disons, la communication. Vous avez parlé tout à l'heure aussi d'autres objets utilisés au Japon. Qui ressemble à un petit phoque en fait, et qui peut avoir des émotions avec des personnes qui effectivement reçoivent peu de visites, des personnes âgées dans des maisons de retraite, etc. Mais finalement, et le dinosaure qu'on voit ici en est un exemple, ce sont des machines avec beaucoup de capteurs et des réactions, enfin des mouvements, des moteurs qui sont dedans, il ne faut pas l'oublier tout ça, qui sont programmés de manière à réagir globalement sous l'effet du contact, du toucher, de la voix, etc. pour donner cette illusion d'émotion. Et c'est nous, c'est les humains, effectivement, qui, projetant leur propre affect à travers les objets qui se déplacent ou qui ont cette allure un peu vivante, qui communiquent entre eux, qui communiquent à eux-mêmes d'une certaine façon.
Le robot, c'est un objet de médiation en quelque sorte.
Je pense.
Ian McDonald, justement, je rebondis sur ça puisque vous, je repars en anglais. You have used quite often.
Assez souvent, vous avez utilisé les robots comme des objets de médiation entre le monde d'adultes et des enfants. Dans le Dervish Housing également, il y avait cette question qui était abordée. Pourquoi est-ce que vous liez les robots au monde des enfants? C'est du fait de votre propre perception des robots quand vous étiez enfant? Je crois que on fait des robots comme on perçoit les enfants. Regardez ce petit bonhomme ici. Ici, pour moi, ce robot représente... Disons, alors vous savez que les animaux, ces animaux se représentent des petits êtres, des petits bébés. Comme nous avons nos bébés, il y a avec des grands pieds, une grande tête. Il y a une notion qu'on appelle uncanny valley. Une notion surnaturelle. Le fait est que les androïdes deviennent de plus en plus, les robots deviennent de plus en plus humains, et donc il y a une manière qui... Nous sommes de plus en plus distants par rapport aux robots, plus ils deviennent humains, parce que nous avons de plus en plus d'appréhension. Il y a un artiste japonais, Ishiguro, qui a construit son double en robot, et il y a quelques petites différences avec le double, avec le robot, et qui nous surprend, bien sûr. Et alors que quand on fait des enfants en robot, on les rend très mignons avec des grands yeux, des choses comme ça. Et donc ce sont un peu des déclencheurs d'émotions qui nous font ressentir en sécurité. C'est peut-être pour ça que dans mon livre La maison des derviches, il y a un enfant qui a une maladie du cœur, mais il y a des jouets robots qui peuvent se reformer dans d'autres formes et qui peuvent lui permettre d'explorer des mondes auxquels il n'est pas censé avoir accès. Et pour moi, j'ai l'impression que ce type de simplicité d'action, de forme, c'est peut-être pour ça que les robots, dans leur simplicité, ont une meilleure interaction avec les enfants plutôt qu'avec les adultes. Un peu plus tôt, on a parlé d'un test, un test de Turing. C'était une expérimentation pour voir si un robot est intelligent ou non. C'est-à-dire qu'on le met dans une autre pièce avec quelqu'un qui fait un test et qui communique avec le robot par le biais d'une interface, d'un écran en fait. C'est-à-dire que si un robot peut convaincre par le biais d'une interface aveugle, disons, qu'un autre humain, enfin un humain qu'il est également humain, là le test fonctionne. Et si on mettait un enfant de 5 ans dans cette situation, si dans une pièce on mettait un enfant de 5 ans et on mettait une personne autiste dans l'autre pièce, est-ce qu'ils arriveraient à se comprendre et à se convaincre qu'ils sont humains? Est-ce qu'un robot, par le biais d'une telle interface, pourrait convaincre un être humain autiste que le robot est humain? Donc pour moi, ça nous montre l'éventail de ce que peut être l'intelligence et des différentes formes qu'elle prend.
L'empathie qu'on peut avoir avec une machine, ce qu'elle nous renvoie et ce qu'elle déclenche en nous comme type d'émotion. On peut, dans l'espace de la fiction, se représenter, dans les recherches actuelles, on n'arrive pas bien à définir ce que c'est vraiment l'intelligence, alors encore moins à l'émuler. Dans l'espace de la fiction, on peut essayer de franchir ce gap, d'aller un peu plus loin. Et là, la question se pose à l'envers. Dans quelle mesure une intelligence artificielle qu'on désire créer, il ne faut pas lui donner un apprentissage? Et comment on va se débrouiller pour le lui donner, alors que justement, elle n'a pas de corps? Notre intelligence, elle est d'organique, elle est énormément influencée par nos émotions, nos sensations, nos perceptions. Un robot...
Je vous pose la question, comment est-ce qu'on met les intelligences artificielles dans une situation telle qu'elles puissent apprendre par elles-mêmes?
Voilà, et c'est la question. Donc là, le corps du robot prend d'une part tout son sens pour l'outil perceptif, pour faire une expérience sensible du monde, mais à mon sens, elle est nettement insuffisante pour développer une intelligence à proprement parler, parce qu'il lui manque tous les outils corporels pour ressentir, pour éprouver le jeu d'hormones qui vont avec, etc.
Donc, à votre avis, c'est à travers la corporalité, si on veut, du robot, la sensation et la perception que l'intelligence artificielle va naître à lui, en quelque sorte?
J'ai le sentiment que oui. Et une des pistes à explorer pour faire grandir en bac des intelligences, ce serait de faire des jardins d'enfants virtuels, d'intelligence artificielle, des environnements virtuels qu'on pourrait ensuite faire évoluer pour avoir d'autres feedbacks. Peut-être avec au début très peu d'éléments, en rajouter un peu plus à chaque fois pour complexifier finalement, arriver pourquoi pas à une émulation de la réalité. Et ensuite on pourrait transférer l'IA dans un corps robot et il y aurait comme ça ces différents paliers.
Raja Chetila, est-ce que vous pensez que Vincent Gasselaire va bientôt travailler dans votre laboratoire à Toulouse? Les jardins d'enfants virtuels, est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Comment est-ce que vous nous avez dit comment vous appréhendiez l'apprentissage aujourd'hui des robots, mais quelles sont les pistes peut-être un peu prospective, avant qu'on ouvre un peu les questions à la salle, de la recherche scientifique aujourd'hui sur cet apprentissage et sur le développement des robots.
Si vous regardez un arbre, aussi grand qu'il soit, il n'a pas de cerveau. Pourquoi ? Parce qu'il ne bouge pas, il ne se déplace pas. En fait, le cerveau humain, le cerveau des animaux, s'est développé surtout à cause de la mobilité. Et la mobilité, c'est de nouveau l'interaction avec l'environnement. Et si vous regardez les zones du cerveau humain qui sont mobilisées en fonction des différentes fonctions que nous avons, hein, vous savez, ce homoncule là, qu'on dessine avec une proportion du cerveau relative à nos différents organes, la partie la plus importante est celle qui est liée à la manipulation. À la manipulation, c'est la main qui mobilise le plus des zones du cerveau. Parce que la manipulation est extrêmement complexe. Hein. Quand je prends un objet, il y a énormément de perceptions qui passent à travers des formes très, très différentes, hein, aussi bien la température, le toucher, la force, etc. Et puis, c'est relativement compliqué de manipuler avec ses cinq doigts. Et c'est ça qui, donc, c'est cette capacité de manipulation, d'interaction avec des objets, qui, je pense, est, pour répondre à votre question, un des points de difficulté et de développement de capacités des robots, disons, ayant une certaine corporalité, hein, c'est-à-dire interagissant avec leur environnement, avec leur corps. De l'autre côté, le problème de l'interaction avec l'autre, c'est-à-dire avec d'autres humains, avec des humains, avec d'autres robots, etc., est aussi un problème d'une très grande complexité et qui donc ajoute à l'environnement l'incertitude du comportement de l'autre. Et c'est aussi une piste de recherche dans le domaine de la robotique et de la robotique interactive et sociale, on dit, comme le petit extrait vidéo que vous nous avez montré, hein, cette interaction permettra aussi d'explorer des nouvelles voies sur la perception de l'autre, l'intelligence collective, la capacité de faire des actions conjointement avec l'autre, donc avoir un modèle, une représentation du comportement de l'autre, l'autre étant un robot ou un être humain.
D'accord, merci. Il nous reste quelques minutes seulement pour prendre peut-être une ou deux questions dans la salle avant de passer à la prochaine conférence. Si voilà, je vais vous le, si un micro qui peut se déplacer et un micro qui va venir jusqu'à vous. Merci.
Oui, merci. Well, I just wonder why we don't try to work.
Je me demande pourquoi on ne travaille pas sur d'autres types d'intelligence, parce que ces animaux ne sont pas des êtres humains, mais ils ont des émotions, je dirais. Et pourquoi on n'essaye pas de travailler plutôt de cette manière, plutôt que de travailler sur des robots qui ont une apparence humaine ?
On n'essaye pas de travailler un petit peu avec l'intelligence animale, sachant que les animaux ont effectivement des sentiments, d'après ce que nous pouvons connaître. Et pourquoi on n'essaierait pas plutôt de travailler à un échange réel avec le monde animal qui nous entoure ?
Alors, je vais peut-être commencer à donner un élément de réponse avant de passer la parole aux spécialistes. Mais il y a des éléments, non pas d'intelligence animale, mais en tout cas de comportement animaux, entre autres que les swarm bots, les robots en essaim, hein, qui, comme chez les insectes, en fait, se comportent les uns par rapport aux autres, mais fonctionnent en groupe. Donc, c'est une forme d'intelligence animale aussi. Et dans les évolutions, il y a le laboratoire de Dario Floriano, par exemple, à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, qui fait des robots volants, par exemple, et qui a, entre autres, inspiré le livre de Michael Crichton, Prey, puisqu'il utilise des systèmes, on va dire, liés à la biologie pour une évolution robotique. Mais je vais peut-être laisser le professeur Chatila de répondre un peu plus clairement.
Non, c'était tout à fait pertinent ce que vous avez dit. Effectivement, il y a beaucoup de travaux sur l'intelligence animale ou l'imitation de l'intelligence animale, c'est-à-dire effectivement cette robotique en essaim, où à travers des comportements très simples, très locaux, on voit émerger une collectivité plus intelligente, hein, comme chez les fourmis ou chez les abeilles. Donc on essaie d'imiter la manière dont ces animaux-là se comportent. On essaye aussi de travailler sur l'intelligence animale d'une manière qui est plus individuelle. Par exemple, comment une abeille vole et s'oriente ce qui est un phénomène extrêmement intéressant et complexe, on essaie aussi de l'imiter. Et il y a même des personnes, et vous avez mentionné Dario Floriano, effectivement, qui ont travaillé sur l'interaction entre des petits robots et des insectes. En particulier, les insectes étaient des cafards. Donc, la question, c'était, est-ce que les animaux vont pouvoir distinguer un petit robot ou un ensemble de petits robots qui se baladent parmi eux par rapport à leurs congénères, sachant qu'il y a bien sûr des phéromones, etc., des odeurs qui permettent l'interaction. Pour ajouter à ce qui vient d'être répondu, c'est effectivement une voie qui est explorée.
Merci. Je n'ai pas l'intention de monopoliser, bien sûr, l'après-midi, mais là, on n'est pas quand même dans ce que moi je pensais. Je pensais à un échange réel au niveau de la perception, au niveau de la discussion, entre guillemets, avec un animal. Chose que personne, jusqu'à maintenant, n'a malheureusement jamais réussi à faire. Non pas une expérience sur des comportements animaux, mais disons un échange réel entre nous, êtres humains, et les animaux vivants qui nous entourent.
Avec mon chat, ça marche très bien.
Oui, on a, je ne crois pas qu'on ait les compétences ici pour répondre à cette question, mais je vais prendre peut-être juste. Il y a beaucoup de questions à la salle et je vois que Gérard Royer, qui va faire la modération dans quelques minutes, me laisse un peu de mou, mais je ne vais quand même pas non plus tuer sa prochaine table ronde. Donc, voilà, peut-être de ce côté-là, sur ma gauche.
Merci, bonsoir. Il y a l'origine du mot robot, il me semble que c'est tchèque et que ça veut dire travail. Si on va trop loin dans l'apprentissage des robots, est-ce que ça risque pas d'avoir des conséquences sociales sur le travail? Et est-ce que dans ce cas-là, pour protéger, il n'existe pas une robot éthique?
Oui, Frédéric Boidron, vous pouvez répondre puisque vous remplacez les femmes de ménage par des robots.
Non, pour moi, en fait, un robot n'est pas là pour nous remplacer. Pour moi, c'est plus un outil. Comme l'informatique n'a pas remplacé l'homme, le robot ne remplacera pas l'homme. C'est un outil comme autrefois on a utilisé des bêches pour le terrain. On a ensuite utilisé l'informatique pour soulager les tâches répétitives. Le robot, ça va être pareil. Il va soulager l'humain sur les tâches les plus répétitives et les moins intéressantes. Pour qu'on s'attaque nous-mêmes aux choses les plus intéressantes des emplois. Et ça va sûrement créer autant d'emplois que ça, on pourra dire on aura supprimé.
Parce que il faudra que quelqu'un répare les robots et les entretienne, évidemment.
Autour de vous, je peux vous assurer qu'il y a sûrement énormément d'informaticiens dans votre famille, dans vos proches, dans vos amis. Et voilà, dans la robotique, dans 15-20 ans, la robotique va avoir autant d'impact sur l'emploi.
Dernière question ici aussi à gauche.
Merci. J'avais juste une question sur la reconnaissance par les humains de l'intelligence des robots. Je me posais la question de savoir si on allait pouvoir un jour reconnaître un robot intelligent, puisque si un robot devient intelligent, c'est qu'on l'a programmé pour devenir intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque du moment qu'on sache comment le programmer pour devenir intelligent, on tienne le discours de dire que, en fin de compte, il n'est pas réellement intelligent, puisqu'on l'a programmé pour devenir intelligent. Comme le petit dinosaure, en fait, on dit, mais il ne sent pas vraiment les caresses, on l'a programmé pour qu'il sente les caresses. Donc comment est-ce qu'on pourrait arriver, si on l'a programmé pour le faire, à dire il est intelligent?
Je ne sais pas, Ian MacDonald, maybe you want to answer that, because you've already touched that.
Peut-être vous voulez vous répondre à cette question, parce que vous avez parlé de cela un petit peu avant. Il y a un des robots qu'on a vu là sur les diapos qui ressemble vraiment à David Cameron, le premier ministre britannique. Et effectivement, c'est peut-être un robot, mais enfin, on y reviendra. Oui, je pense que la question, au bout du compte, est de savoir si nous avons vraiment une volonté d'agir, une volonté propre. Je pense que à un moment donné, le jour où on arrivera, ou deux, on arrivera à un moment où deux robots dinosaures arriveront à faire un petit robot dinosaure et que ce petit robot dinosaure aura les mêmes comportements que ses parents. Donc là, je pense qu'on pourra dire que l'intelligence pourra être donnée en héritage plutôt que programmée. Cette machine est probablement plus intelligente que mon chat, en l'occurrence. Elle se comporte d'ailleurs peut-être mieux. Hein. Non, le problème, je pense, c'est que il y a un peu de trop, enfin un peu en tout cas d'anthropomorphisme. Et encore une fois, nous voyons comme les seules créatures intelligentes, parce que finalement, nous sommes les seules créatures que nous connaissons qui sommes intelligentes, et nous avons une position que ne peut revendiquer aucune autre créature sur la planète. On a parlé du caractère un peu zombifié de certaines créatures, et ici, voilà. Voilà ce petit robot. C'est-à-dire que un robot peut sembler intelligent sans pour autant l'être, et donc Daniel Lemetz nous dit que nous parle de cela justement. Donc on peut feindre l'intelligence et grâce à un programme. Je dirais, je serais plutôt d'accord avec Daniel en l'occurrence là, c'est que c'est notre sens du privilège, pour ainsi dire, de notre propre privilège qui nous empêche de voir l'intelligence dans d'autres, dans des machines ou dans d'autres créatures.
Cette table ronde en direct d'Utopial de Nantes, nous allons laisser la place à une nouvelle table ronde animée par Gérard Royer qui va commencer dans quelques instants. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Bon après-midi.